Alors vous êtes au verset 6 du chapitre 15. Ve'emin Hashem. Le sujet c'est Abraham. Et Abraham eut Emouna en Hashem. Vayarcheve'a lo tzedaka. Et d'après la lecture de Rashi, le sujet de Vayarcheve'a lo tzedaka, c'est Dieu. Et Dieu lui a imputé cette Emouna qu'il a eue en tzedaka. Et Rashi précise Srut ou tzedaka. C'est-à-dire mérite et justification. Tzedaka dans le sens de une vertu. Et alors d'où la question que j'ai posée tout à l'heure, en quoi c'est une vertu tellement extraordinaire de croire quand c'est Dieu qui promet. Mais retenez bien en tout cas ce qu'on a vu entre-temps. L'objet de la foi, c'est la confiance qu'une promesse que Dieu a faite se réalisera. Il ne s'agit pas du tout de problème théologique de croire si Dieu existe ou pas. C'est tout à fait autre chose. J'insiste parce qu'il y a une erreur chez beaucoup de gens à cause des problèmes propres aux Français lorsque le Français parle de la foi. Emouna en hébreu, c'est adhérer à. C'est le sens de la racine d'où vient le mot Amen. Amen, ça veut dire j'adhère, je fais confiance. Il y a même une nuance un peu, j'approuve. Mais ne tombez pas dans l'erreur de penser Amen dans le sens français que ça a eu à travers le latin. Bien sûr, le mot est d'origine hébraïque. Que ça voudrait dire, si Dieu veut, ainsi soit-il. C'est pas du tout ça. Amen, ça veut dire, j'ai entendu quelque chose et j'y adhère. C'est pas un souhait. C'est une déclaration de confiance, une déclaration d'adhésion. Léha Amin. Le verbe inverse, c'est les ma'en, mem alef nun, qui veut dire refuser, nier, les ma'en. Amen, alef mem nun, c'est adhérer, ma'en, c'est refuser, c'est l'inverse. Alors voilà donc la lecture de Rashi. Ce que je veux mettre en évidence, et tout de suite vous comprendrez, que là nous sommes sur le bord d'un problème très important, c'est que le terme que le verset emploi pour dire Dieu, c'est le mot de Hachem. Ve'emin Bachem. Alors que nous avons vu que la vertu de Noir, comme ça dit, c'est au niveau Elohim. Vous vous rappelez de ça, hein? Alors voilà l'idée qui apparaît là, nous allons le vérifier dans ce que dit Rashi sur le verset précédent, c'est que d'après les lois de fonctionnement du monde, et jusque-là, Abraham a la Emouna dans Dieu créateur du monde, Elohim. Le chidouche, la chose nouvelle, c'est qu'ici, ce qui apparaît, c'est qu'il a cru en Hachem. Et nous avons à comprendre quelle est la différence. D'après les lois du fonctionnement du monde, Abraham sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et voilà, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Tu auras un enfant ». Alors c'est un effort considérable, le surhaussement de la foi, d'adhérer à cette voix qui lui dit « Tu auras un enfant », alors que d'après sa propre foi antérieure, il sait qu'il ne peut pas en avoir, parce que les lois de fonctionnement du monde l'empêchent d'enfanter. C'est-à-dire, suivez bien cela, je vais lentement, pour pouvoir avoir la Emouna en Hachem, il faut dépasser la Emouna en Elohim. C'est-à-dire, Elohim, c'est le créateur du monde, et c'est lui qui garantit les lois du monde. Un des exemples des commentateurs qui explique ça de manière très simple. Abraham est très âgé. Alors imaginez à cet âge, et Sarah est très âgée, entendre cette voix qui lui promet un enfant de Sarah, alors qui sait, d'après le fonctionnement du monde, à cet âge, c'est invraisemblable. Le fait d'y croire quand même, c'est croire en un miracle au-delà des lois de fonctionnement du monde. La Emouna dans Hachem est au-delà de la Emouna en Elohim. Et le mérite vient de ce qui soit capable de la Emouna dans Hachem, alors que ça contredit sa connaissance première de la Emouna en Elohim. Est-ce que c'est clair ce sujet? Je vais vous donner un exemple. Il m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié l'histoire du judaïsme français. Maintenant, vous avez connu une communauté en France où il y a énormément de vie juive. Il y a des raisons historiques à cela. C'est tout ce qui est arrivé après la guerre, et surtout à l'arrivée des Nord-Africains à partir des années 60, qui a bouleversé un peu la carte des communautés juives en France. Mais depuis la fin du siècle dernier, il y avait en France une assimilation galopante. Je pense que ça vous avez été familier à cela. Il y a eu un des derniers grands rabbins de France, qui était un homme d'une très grande stature, qui était Zadok Khan. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là, de Zadok Khan, qui était un des grands rabbins en France. Mais indépendamment de ça, c'était un grand ami de Raham. J'ai lu des préfaces qu'il a données à des livres qui étaient édités à Paris, des livres de rabbins d'Europe centrale ou d'Europe orientale, des préfaces qu'il a données en hébreu. Et ça montre qu'il était vraiment un homme très... Pas comme les grands rabbins français qui ne connaissaient que les choses en français à cette époque, mais lui, il connaissait vraiment les choses de fond. Et alors, on raconte, on lui a un jour demandé, dans sa communauté, est-ce qu'il y a encore un espoir pour le judaïsme en France ? Il a répondu, il n'y a pas d'espoir, mais il faut faire comme si il y en a un. Vous voyez, cette foi en dépit d'eux. Ça veut dire l'expérience est contre ce en quoi on croit, et on croit quand même. Vous voyez, de quelle nature de mérite le commentaire de Rashi veut parler. Bien. Effectivement, vous avez dû, sûrement dans les communautés où vous avez vécu, ça dépend où d'ailleurs, parce que la plupart des Nord-Africains se sont rassemblés dans des communautés nouvelles, surtout dans les banlieues parisiennes. Mais ceux qui ont vécu peut-être en province, je ne sais pas si c'est votre cas, dans des villes comme Reims, comme Orléans, comme... il y avait des anciennes communautés de Juifs de France, et puis il restait des synagogues vides. Et avec des vestiges d'un passé, d'une culture juive, de langue française, mais vraiment de la vieille France. Et puis ça avait fini par disparaître. C'était un judaïsme qui disparaissait. Et alors, imaginez les hommes de ce judaïsme-là, à qui auraient entendu cette voix, à partir de vous, il y aurait une fécondité extraordinaire. À Paris, il y aura 55 restaurants cachers, alors qu'il n'y en avait pas un seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette... Il fallait vraiment avoir la foi pour y croire. Vous voyez à peu près, je vais vous donner simplement un exemple de ce en quoi ça peut représenter. Abraham se connaît comme étant incapable d'avoir d'enfant. Et pourtant, c'est à lui que Dieu s'adresse pour lui dire « tu auras un enfant ». Bien que ce soit Dieu qui s'adresse à lui, c'est difficile pour lui d'entendre cette voix. Parce qu'il connaît Dieu comme créateur du monde et garant des lois qui font du fonctionnement du monde. Vous voyez cette tension qu'il y a. Lorsque Abraham est capable de dépasser cela, il va changer de nom. Jusque-là, il s'appelle Abraham, vous avez dû remarquer dans le texte. Alors on va voir une source que cite Rashi qui va éclairer cela. Vous allez voir le verset précédent. Alors prenez le verset 5 du chapitre 16. Lorsque Dieu, et ce n'est pas la première fois, se révèle à Abraham, et le texte dit « Hachem se révèle à Abraham, Dieu qui révèle le projet du Créateur pour les temps futurs. » Pas Dieu tel qu'on le connaît pour ce qui est déjà arrivé dans l'histoire du monde. Mais la révélation de Hachem concerne l'avenir du monde. Mais alors c'est deux fois différente. Le fonctionnement des lois du monde, sous la garantie du Créateur, fait qu'Abraham n'aura pas d'enfant. Et voilà qu'il entend la voix de ce même Dieu, mais lui parlant pour l'avenir, tu auras un enfant. Et alors, c'est difficile pour lui d'entendre cela. Ce n'est pas la première fois que Dieu se révèle à lui pour lui annoncer un enfant de Sarah. C'est ici, en fin de compte, qu'Abraham est capable d'entendre cette promesse. C'est là qu'il va changer de nom. Il va recevoir le nom d'Abraham. Il retrouve son identité hébraïque. On expliquera par la suite. Jusque-là, il avait l'identité araméenne. Des exils de l'hébreu de Babel. Et quand il revient de Babel, il s'appelle Abraham, il a l'identité araméenne, Aram, et c'est dans ce cheminement de la foi d'Abraham en Hachem qu'il va redevenir Abraham dans le sens hébraïque de son identité retrouvée. Et là, vous allez voir à quel point le Midrash est très précis. Alors le verset dit ceci, suivez le verset 5. Et Vayotse Oto Achusa. Achutza, il était dans la tente quand Dieu s'est révélé à lui pour cette promesse. Et le verset dit, il le fit sortir en dehors, littéralement, le pshat, c'est en dehors de la tente. Vayomer, et il dit, Habetna Shamaima, contemple le ciel, Uspora Kochavim, et compte les étoiles, Imtuchal Isporotam, si tu peux les compter. Vayomerlo, il lui dit, Koyezaracha, ainsi sera ta postérité. Vous voyez ce qui est annoncé à Abraham. Regarde les étoiles, et si tu arrives à les compter, tu sauras le nombre de ta postérité. Alors qu'il est au stade où il se connaît comme n'ayant pas d'avenir, du point de vue des engendrements. L'analogie que vous a donnée, c'est l'idée d'une communauté qui se connaît comme en fin d'histoire et à qui une voix viendrait dire, eh bien, vous serez le point de départ d'une fécondité qui sera la bénédiction pour toutes les nations. Imaginez ça. Oui, ce qui est arrivé à beaucoup de juifs français, à l'époque dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'ils ont renoncé à croire à l'avenir d'Israël en tant qu'Israël. Ils ont cherché quelle société vivante pourrait être les porteurs des idéaux d'Israël que les prophètes avaient enseignés. Et les juifs de France étaient persuadés que c'était la France, comme France, qui allait devenir le véritable avenir messianique du monde. Les juifs de France de cette époque ont cru vraiment que c'est la France qui serait le porteur des idées des prophètes. Vous êtes nés après ce temps-là, mais je pense que vous avez certainement rencontré des juifs assimilés de ce type, qui étaient persuadés. J'ai écouté, moi, dans ma jeunesse, des discours de grands rabbins de France qui faisaient toujours un parallèle entre les 10 commandements des 2 tables de la loi et la constitution française. Dire à quel point c'était la même chose. Okay. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Une espèce de renoncement que c'est la société juive qui porte cet héritage hébreu et que le relais est passé à la France, ça c'était pour les juifs français, à l'Allemagne, c'était pour les juifs allemands, à l'Angleterre, pour les juifs anglais, etc. Tous les juifs de la diaspora, de cette fin d'histoire d'une diaspora qui s'assimile, étaient persuadés que c'était leur goy qui étaient les héritiers des valeurs qu'avaient annoncées les prophètes d'Israël. Nous verrons qu'à un certain moment dans l'histoire d'Abraham, ça se passe, ce fléchissement de la foi se passe avant, lorsque Abraham et Sarah entendent ces promesses qu'ils auront un enfant, eux, Abraham et Sarah, et finalement il y a un fléchissement de la foi, et que Sarah propose à Abraham d'avoir un enfant avec Agar, parce qu'elle, elle croit qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Entre-temps, Ishmaël est né, et vous savez les tsarot que l'on a avec Ishmaël, à cause de cet fléchissement de la foi, où Sarah, avec beaucoup de générosité, propose à Abraham que Agar prenne le relais, puisque elle, pense-t-elle, elle n'en est pas capable. Vous voyez ce qui se passe. On arrive à une saturation de stérilité, et alors il y a un renoncement. Et puis, à ce moment-là, il faut comprendre cette révolution de la foi qui se passe en Abraham, il finit par y croire. Ve'emin b'Hashem. Alors regardez Rashi. Vayotze oto achusa, suivez avec moi. Je traduis. Les filles pshuto, d'après le pshat du verset, Otsio miaholo, il l'a sorti de sa tente, lirot akorabim, la chout, à l'extérieur, lirot akorabim, pour voir les étoiles, ou fi midrasho. Mais d'après son midrash, Amarlo, il a dit, tse mi istagninut shelach. Istagninut, c'est le thème astral, le thème astrologique. Ça veut dire, sors de ton conditionnement naturel, chez Raïta Bemazalot, parce que tu as vu dans les astres, chez Encha Atilea Amid Ben, que tu n'es pas destiné à avoir de fils. Ça veut dire, dégage-toi, déconnecte du déterminisme naturel. Abraham Enloben, Abraham n'a pas de fils. Aval Abraham Yesloben, mais Abraham aura un fils. De la même manière, Sarah ne peut pas enfanter, avec Sarah Télet, mais Sarah enfantera. Vous voyez ce qui se passe dans cette explication de Rashi. Ça veut dire c'est que Abraham, et avec lui Sarah d'autre part, vont être capables de se surhausser plus qu'au niveau de la foi naturelle. Il y a des lois qui gouvernent l'histoire de la vie dans le monde, d'après ces lois, on ne peut plus enfanter, on est en fin de série, on est en fin d'histoire. Vous voyez cette espèce de fléchissement de la foi après une période d'attente stérile. Eh bien, Abraham arrive à se dégager de cela, il sort de cela, de ce thème de détermination naturelle, et alors il a pu faire foi en Hachem. Voilà ce que je voulais mettre en évidence. Donc, nous avons, nous, déjà, d'après le pshat, une première réponse à cette difficulté, où était le mérite pour Abraham de croire. Eh bien, ce n'était pas facile pour Abraham de croire, dans les conditions naturelles où il était, cette annonce. C'est à peu près la septième fois que Dieu s'adresse à lui et à Sarah, plusieurs fois dans le texte, mais le Midrash restitue plusieurs étapes, qu'ils auraient un enfant. Regardez ce qui se passe. Le peuple juif, à travers 2000 ans, a vécu comme s'il n'y avait aucun espoir, et malgré tout, il a vécu cet espoir. Et en fin de compte, subitement, c'est arrivé. Et seulement, on avait tellement attendu qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'est-ce qu'on attendait et qu'est-ce qui est arrivé. Et vous voyez, c'est cette histoire-là que vit Abraham dans ce verset-là. En fin de compte, que soit l'invraisemblance, il arrive à avoir le courage de faire foi en cela. Alors Isaac va naître. Voilà. Eh bien, maintenant, on peut aborder la question telle que Narmanide va la poser. Mais je voulais être sûr que vous avez bien compris ce premier niveau. Dans tous les cas, c'est un mérite exceptionnel pour Abraham de croire en Hachem. Et ça justifie, s'explique Rachid. Et Dieu a considéré cette foi qu'Abraham a été capable d'avoir en un grand mérite. Bon, ça c'est Rachid. C'est clair jusque-là? Donc, qu'est-ce que tu veux dire?
De nos jours, maintenant nous, je connais Hachem, avec la sortie d'Égypte et qu'on a vu le retour en Eretz Israël, par exemple.
Très bien, c'est très bien, c'est une très bonne question. On va voir, ça fait partie de la réponse de Narmanide. Bon, retiens ta question, tu vas la retrouver. Alors, on vous a distribué cette page. Vous avez ici le commentaire de Narmanide, vous allez le suivre avec moi. Vehemin Bachem, et il eut foi en Hachem. Va achever le Zaka, et Dieu lui a imputé en mérite, ça c'est le verset. Puis Rashi, alors Narmanide va commencer par citer Rashi. Rashi a expliqué, Akadosh Baruch Hu, Chashav lo Tzedaka Osrut, Dieu lui a considéré en Tzedaka et en Srut, Rashi avait dit en Srut Zaka. Les nuances là, enfin c'est les érudits qui étudient ça. Al Aemuna Sheemin Bo. Par rapport à la foi qu'il a eue en lui. Vous vous rappelez la lecture de Rashi. Alors on continue. Tu suis toi là-bas? Veni mevin, et Narman nous dit, je ne comprends pas, ma srutazot, quel est ce mérite? Lama lo yemin beloé omen. Pourquoi Abraham ne croirait pas dans le Dieu digne de foi? Vehu anavi beratzmo, alors qu'il est lui-même le prophète. Il sait lui-même que c'est Dieu qui lui parle. Velo Ishel vichazev, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Umi sheemin ishrot et veno, et celui qui a cru, ici il y a une allusion au sacrifice d'Isaac, jusqu'à être prêt à sacrifier son fils, à Yachid, son fils unique, à Ahou, son fils bien-aimé, Veshar Nisyonot, celui qui a surmonté toutes les autres épreuves, Ech lo yaamin bevesorat Torah. Comment ne croirait-il pas dans une bonne nouvelle? Vous avez vu comment Narmanide formule son objection. Vanachon ve'enai, et ce qui est exact à mes yeux, est-ce que vous suivez là-bas? Sur le texte? J'ai pas l'impression. Vanachon ve'enai, et ce qui est exact à mes yeux, qui y a mer? C'est qu'il faut lire le verset ainsi, Shehemin Bashem, que Abraham a eu foi en Dieu, en Hachem. Vechashav, et Abraham a pensé, qui betzidko shel HaKadosh Baruch Hu, que c'est par la charité de Dieu et sa justice, iten lo zera al kol panim, que Dieu lui donnera, dans tous les cas, une postérité, velo betzidkat Abraham ou Vishraho, et pas par le mérite d'Abraham, et son salaire, et le salaire de ce que serait sa vertu. Ça veut dire, vous voyez tout de suite quelle est l'explication de Narmanide, que c'est Abraham qui est le sujet de Vayechaveh lo Tzedaka. Pourquoi Abraham a eu foi dans la confiance dans la promesse que Dieu lui fait? C'est quand il a compris que c'est par charité que Dieu lui donnera un fils, c'est pas parce qu'il le mérite. Afalpish et Amarlo Sradecha al-Bemehod. Bon, je ne dis pas la suite, ça va être un peu plus difficile. Vous voyez quelle est l'objection de Narmanide. Et Narmanide nous fait lire un verset qu'on peut lire absolument comme lui. Ve'emin Bashem, qu'Abraham a eu confiance en Dieu, Vayarchevea l'eau, et Abraham a imputé cette promesse de Dieu à Dieu, l'eau, tzedaka, comme une tzedaka que Dieu lui fait, et pas comme un mérite que lui a Abraham. Vous voyez, tout à fait une toute autre lecture. Alors, il y a deux choses qui sont étonnantes là-dedans. D'abord, Nachmanide est postérieur à Rachi. Et c'est pas du tout normal qu'une autorité postérieure critique l'enseignement d'une autorité antérieure. Donc il faut comprendre pourquoi Nachmanide ne veut pas qu'on lise comme lit Rachi. Et est-ce que ça voudrait dire que Rachi n'a pas compris l'objection que Nachmanide se fait? On a vu tout à l'heure que Rachi a très bien vu qu'il y avait une difficulté pour Abraham de croire, donc il est allé au-delà de l'objection de Nachmanide. En fait, c'est absolument inhabituel qu'un commentateur postérieur va non seulement dire quelque chose d'autre ou de différent en plus de ce qu'il a reçu de ses maîtres, mais va contredire totalement la lecture d'un maître antérieur. Ça n'existe pas. Pour autant, il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Et en fait, je vais déjà indiqué quelque chose d'important. Nachmanide ne veut pas qu'on lise comme lit Rashi. Et c'est la lecture de Rashi qui est exacte, d'après le verset. Mais il faut comprendre pourquoi Nachmanide nous en propose une autre, à cause de quoi il ne veut pas qu'on lise comme Rashi. Alors je vais vous expliquer ça historiquement. Je ne sais pas si vous savez beaucoup de choses sur Nachmanide, mais en tout cas Nachmanide, c'était un des grands maîtres en Espagne, postérieur à Rashi. Et puis, qui a été au centre des controverses judéo-chrétiennes. Or, la lecture de Rashi va sembler donner raison à la lecture chrétienne. C'est la question de tout à l'heure. Et c'est pourquoi Nachmanide, lui, par l'expérience des controverses avec les chrétiens, veut nous empêcher de lire comme Rashi et nous propose une lecture juive. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est un goy qui, d'en dehors d'Israël, pour des raisons qui lui sont propres, ça s'étudie d'autre part, mais c'est pas maintenant le centre du sujet, a finalement entendu cette révélation qui a été donnée à Israël, qu'il y a une promesse qui dépasse la vie de nature. Ce que le texte dit ici, que au-delà des lois que le Créateur a mis dans le fonctionnement du monde, c'est la Torah de Elohim, Créateur du monde, ce même Elohim, Créateur du monde, se révèle à Israël, et on l'appelle Hachem, celui qui se révèle pour le projet de l'avenir, la Torah de Hachem. Eh bien ça, c'est la foi d'Abraham. Un chrétien, c'est un païen qui a ce mérite exceptionnel de cette expérience qu'a eu Abraham de se dégager de la foi naturelle pour croire dans la révélation des prophètes d'Israël. Ce qu'ils en ont fait, c'est une autre histoire. Mais alors, c'est ça que dit Rashi à propos d'Abraham. C'est l'homme qui se dégage de la foi naturelle, c'est l'astrologie, et tous les paganismes de l'Antiquité, c'était l'astrologie. Si vous apprenez le christianisme, vous verrez que le christianisme ne s'est pas dépêtré complètement de l'astrologie. C'est une religion dont toute la liturgie est pleine d'astrologie, mais c'est une autre question. Mais la lecture de Rashi, c'est la lecture exacte du verset pour Abraham. Mais Abraham n'est pas encore Israël. Nachmanide veut nous faire lire le verset pour Israël, parce qu'entre-temps, il y a le christianisme. Donc la lecture de Rashi, c'est la vraie lecture. Mais Nachmanide ne veut pas qu'on la lise, à cause du danger que ça risquerait de donner raison à la lecture chrétienne. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, c'est Rashi qui a raison. Le fait d'accéder à la foi en Hachem, à la promesse de Hachem, c'est un mérite colossal. Ça, c'est le mérite d'Abraham. Mais pour Israël, le salut vient de l'accomplissement de la Torah, pas de la foi. La foi, c'est une des mitzvot de la Torah. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham, c'est le commencement d'une histoire qui va mener en Israël, à Israël. Mais Abraham n'est pas encore Israël. C'est a posteriori de Jacob qu'Abraham sera Israël. Si Abraham ne mène pas à Isaac, il mène à Ishmaël. Et si Isaac ne mène pas à Jacob, ça mène à Ésaü. Mais nous avons, nous, l'histoire d'Abraham qui mène à Isaac, qui mène à Jacob, qui lui reçoit le nom d'Israël. Alors, à posteriori de Jacob, Isaac et Abraham sont d'Israël. Donc, j'ai essayé de simplifier ce problème parce qu'il est extrêmement vaste. Ça veut dire, la lecture de Rashi dans l'ordre, c'est la lecture du verset. Mon Nachman et Nachman pourront dire, cette lecture, il faut pas que tu la lises comme ça. Parce que, en fin de compte, c'est moi qui ajoute ça, ça va donner raison à ce que disent les chrétiens. Que c'est la foi qui justifie. En Abraham, il n'y a pas de problème. Et c'est ça que dit Rashi pour Abraham. Mais pour Israël, et c'était ça ta question, okay, pour Israël, justement, je dois le reprendre de la manière dont, comment tu t'appelles,
David
l'a dit, nous avons déjà les preuves, a posteriori. Abraham est au commencement de cette histoire. Mais pour nous, qui avons toute une histoire qui est la preuve que les promesses de Dieu s'accomplissent, où est le mérite du salut du juste? C'est pas par la foi, c'est par l'accomplissement de la loi de cette foi. Vous voyez la différence entre christianisme et judaïsme? Est-ce que c'est clair? Alors je vous ai simplifié ça, j'espère que c'est suffisamment clair. La lecture de Rashi, c'est le pshat du verset. Mais Nachman, intentionnellement, nous dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire pour nous. Pour nous, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est pas qu'Abraham doute de ce que Dieu puisse l'accomplir. Ce dont il douterait, s'il doute, c'est ce que je mérite, ce que Dieu m'a promis. Et pour mériter ce que Dieu m'a promis, il ne suffit pas de le croire. Il faut une conduite qui soit homogène à cette promesse. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez la différence. Alors voilà un exemple de l'étude des versets, en tout cas que je veux greffer au problème qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire la notion du tzaddik. On est arrivé donc à la fin de la première période de la civilisation humaine, on est allé très rapidement, tous les sursis ont été éprouvés, cette civilisation est condamnée, mais voilà que Noé a été sauvé. Alors il faut savoir qu'il a été sauvé par grâce, c'est clair. Mais il faut savoir, d'autre part, qu'il était tzaddik. C'est pas parce qu'il était tzaddik qu'il a été sauvé. Là, je vais vous expliquer déjà à l'avance. Seul un tzaddik qui est capable de sauver les autres mérite d'être sauvé. Ça n'a pas été le cas de Noé. Ça sera le cas d'Abraham. Ça sera surtout le cas de Moïse. Alors je vais vous l'expliquer au niveau de Moïse. C'est d'ailleurs un verset qu'on a lu cette semaine dans la paracha de Shabbat. Que signifie le nom de Moshe en hébreu? En général, on traduit « sauver des eaux ». Le verset dit que la fille de Pharaon, qui s'appelait... Mais vous savez, c'est pas dans le verset. Bon, c'est notre sujet. Et que ça veut dire « Batia » ? C'est un nom bizarre pour une fille de Pharaon. Okay. Bon, de notre sujet. Alors, en tout cas, dans tous les cas, le verset dit que la fille de Pharaon l'a nommé Moshe, qui minamaim meshitihu, car je l'ai retiré des eaux. Mais alors, à ce moment-là, en hébreu, il faudrait qu'il s'appelle Mashoui, et pas Moshe. Celui qui a été retiré de l'eau. Moshe, c'est celui qui retire de l'eau. Alors, où est-ce qu'on apprend de cela? Slicha? C'est ça. C'est parce qu'il est capable d'être sauveur qu'il a été sauvé. On apprend de son nom, même. Vous apprendrez par la suite, on arrivera dans l'histoire d'Abraham, que la vertu d'Abraham est au-delà de la vertu de Noé. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Je simplifie encore une fois. Rappelez-vous le verset du premier chapitre de la paracha de Noé, c'est-à-dire le verset 7 du chapitre 6, et à Elohim italer Noé. Noé se conduisait en compagnie de Dieu. Tandis que nous avons un verset concernant Abraham qui va changer le nom, qui dit Dieu, c'est plus Elohim, c'est Hachem, et Abraham marche devant, il annonce Hachem. Quel est le verset? Italer lefanai, vietamim. Trouve le numéro du verset. Oui, je vais très, très rapidement vous parler de cette différence des deux versets. Notre verset concernant Noah, c'est que « Et Elohim italer Noah ». Noah se conduit en conformité avec les lois de la création. Tandis que c'est au verset 17 du chapitre. Alors prenez-le. Chapitre 17, verset 1. Voilà ce que Dieu dit à Abraham.